Merci pour l'organisation de cette conférence de consensus dont nous avons bien besoin. Nous avons besoin de conférences de consensus en France sur les questions vives de notre société, notamment en éducation, où c'est encore très peu pratiqué. Dans le champ de la santé, ça existe déjà, mais nous avons des manques. Et merci au CNESCO et à l'IFE d'avoir lancé cette procédure. Donc je réponds à partir de mes recherches et celles de mes collègues aussi, essentiellement sur l'école primaire et dans une certaine mesure le collège, à partir de recherches bibliographiques, empiriques ou expérimentales. Dans le rapport du Haut Conseil de l'école qu'il m'avait commandé pour son rapport sur l'école primaire, j'avais effectivement déclaré ce qui vient d'être rappelé. Comme mes camarades ont déjà dit beaucoup de choses, je vais passer très vite et puis en fait je vais un peu reconstruire l'intervention que j'avais prévue. Donc je ne reviens pas, c'est suffisamment étayé, inefficace, inéquitable, coûteux, avec de nombreux aspects négatifs. Et l'idée est évidemment de pouvoir substituer au redoublement des solutions individualisées de prévention et de prise en charge des difficultés scolaires. Alors, je trouve que Thierry et Olivier ont fait des présentations très, très brillantes de ces difficultés méthodologiques, des variations aussi de résultats. Bien entendu, toutes ces études statistiques auxquelles on fait référence dans les travaux internationaux sont extrêmement utiles. C'est vraiment la base sur laquelle travailler, même si par ailleurs, chacun dans la salle connaît probablement un petit Mathieu ou une petite Marie qui, individuellement, a pu bénéficier du redoublement, n'est-ce pas ? Si on se fondait sur des cas cliniques et individuels pour définir une politique, ça serait dommage. J'espère que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent d'ailleurs. Et il me semble que par rapport à ces approches, il manque peut-être une dimension, parce qu'on nous a dit finalement les résultats varient selon le contexte, mais selon d'autres paramètres, je ne vais pas revenir sur le dernier exposé, mais il me semble qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est le développement de l'enfant. Ce sont les processus de développement de l'enfant. Et on a tendance à raisonner un peu, toute chose étant égale par ailleurs, comme si au CP, en fin d'école primaire, début de collège, lycée, ça représentait les mêmes choses. Alors, je vais aller un peu de ce côté-là. Donc, je ne reviens pas sur ces aspects, je repasse très vite. On sait que c'est inefficace globalement au niveau du système lui-même, puisque les pays de l'OCDE à promotion automatique ou à taux de redoublement réduit ont des performances plus élevées que notre pays. Et la France est quand même l'un des pays qui a le plus fait redoubler d'après les résultats PISA donc pour l'OCDE. Alors, du point de vue des performances individuelles, et pas uniquement du point de vue du système, le redoublement par rapport au non-redoublement ou la promotion est très peu efficace, inefficace ou pénalisant, que ce soit au niveau général de compétences qui peut être mesuré, que ce soit en lecture, en mathématiques ou dans les méthodes de travail. Ces données ont été obtenues essentiellement sur l'école primaire. Et on sait aussi que les prescriptions de redoublement varient selon d'autres critères que les compétences des enfants. Rappelons, ça a été dit d'ailleurs de manière peut-être un peu implicite, qu'en France, elles ne sont pas fondées sur des évaluations standardisées. Et elles varient selon les enseignants, selon les régions et dans l'enseignement secondaire, selon les filières. Et elles varient également, je crois que c'est Thierry qui l'a dit, selon les caractéristiques sociodémographiques des enfants. Si vous avez le malheur donc d'être un garçon de milieu social défavorisé et né en fin d'année civile, eh bien, ça sera très pénalisant pour vous, notamment à l'école primaire. Donc je ne reviens pas sur ces données. Une question qui se pose, c'est de savoir quand on mesure les résultats, les performances scolaires après la décision de redoublement. Est-ce que c'est l'année suivante? Est-ce que c'est plus tard? Ce n'est pas forcément précisé dans les études. On sait que les écarts en France, d'après les données françaises des années 2000, se creusent, d'autant plus si le redoublement est précoce. Idem, même quand on contrôle les variables sociodémographiques des enfants, et on pourrait dire que le redoublement, je cite Marcel Crahé, qui intervient demain, je crois, est un mécanisme d'amplification des différences initiales de compétences. Voilà, pourrait-on dire, si on était cynique, son efficacité. On sait aussi que le redoublement a des incidences négatives sur les dimensions conatives de la personnalité. Alors, selon les concepts qu'on va étudier pour les évaluer, réaction affective, image de soi, comportement, attitude vis-à-vis de l'école, espérance de réussite, etc., bon, il augmente la probabilité d'abandon précoce des études. Là aussi, les études concernent surtout les enfants en fin de primaire et au collège. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que même en début de scolarité, les enfants peuvent se mettre à l'écart de certaines situations scolaires parce qu'ils pensent, en se fondant sur les évaluations de leurs enseignants, qu'ils ne sont pas assez compétents. Et le découragement peut donc commencer très tôt dans la scolarité. C'est ce qu'on a appelé le découragement induit ou la résignation apprise, de Cyriane était citée tout à l'heure, dès lors que la demande semble dépasser les possibilités individuelles jusqu'à faire baisser les performances en dessous du niveau initial des débuts d'année. Nous avions réalisé des études longitudinales avec des élèves redoublant le CP qui montraient que le redoublement affecte négativement l'estime de soi scolaire un an après, lorsque les enfants sont passés en CE1, avec une sorte d'effet retard. Et un an après le redoublement, les élèves obtiennent de moins bons résultats en lecture que les non-redoublements, malgré un niveau équivalent avant le redoublement. Et il faut aussi comprendre que les enfants le disent là, dans l'enquête du CNESCO, dont on n'a pas encore parlé. Ils sont dans une sorte d'injonction contradictoire. On les a fait redoubler pour leur bien, entre guillemets. Donc ils ne peuvent pas penser que c'est une mauvaise chose, qu'on a voulu leur faire du mal. Et en même temps, une majorité d'entre eux déclarent l'avoir vécu assez douloureusement. Le redoublement, ça a des effets stigmatisants chez les enfants, parce qu'ils voient leurs camarades changer de classe, alors qu'eux-mêmes doivent répliquer à l'identique, y compris dans l'ennui, comme ça a pu être évoqué, le programme d'un niveau scolaire, quel que soit leur niveau dans les différentes disciplines et les progrès qu'ils ont pu réaliser pendant un an dans un certain nombre de disciplines. C'est une sorte de tout ou rien. Donc moi je pense que c'est un mécanisme, l'un des mécanismes d'amplification des différences initiales de compétences, comme l'est un système de notation des élèves qui vise à sélectionner et à classer par rapport à une norme sans aider à progresser. Je n'ai aucune opposition, bien au contraire, à l'évaluation, s'il ne s'agit pas de cela. Ou bien à l'école primaire, les devoirs écrits à la maison, qui perdurent, malgré le fait que depuis 1956, ils n'existent plus, ou des dispositifs qui externalisent l'aide aux élèves par rapport à l'accompagnement individualisé dans la classe, que ces dispositifs soient le fait de l'école ou d'intervenants extrascolaires. Ces mécanismes continue d'avoir la faveur d'une grande partie des adultes, et il me semble que développer des alternatives au redoublement renvoie au processus de changement des représentations sociales, bien sûr. On a vu, Nathalie l'a dit, qu'il y a des évolutions en cours. Ça renvoie à des choix politiques, absolument, et à la question de la formation des enseignants, notamment dans les sciences cognitives. Apprendre à observer les élèves en train d'apprendre et pas seulement à construire une leçon, s'attacher à analyser les difficultés des élèves, qu'est-ce qui coince pour cet enfant, quel est le sens de ses erreurs, les anticiper, aider à développer des stratégies de résolution de problèmes, comprendre les difficultés des élèves et les aider à les dépasser, donc comprendre les difficultés des élèves plutôt que de considérer les élèves en difficulté. Alors, que conclure pour des alternatives efficaces au redoublement ? Éradiquer le redoublement, évidemment, ne suffit pas pour mieux aider les élèves, mais les économies que représente cette suppression permettent de développer d'autres modalités de prévention et d'aide aux élèves pour dépasser ces difficultés qui doivent être aussi mieux évaluées en France quant à leur impact. Je voudrais quand même souligner que les décalages individuels, inter-individuels et intra-individuels de compétences font partie du développement normal des enfants et doivent être admis comme tels en éducation. C'est-à-dire que si vous êtes né en début d'année civile ou en fin d'année civile, vous êtes dans la même classe, et pour des jeunes enfants, on ne peut pas attendre la même chose des plus âgés et des plus jeunes. Bon, c'est un élément qui paraît trivial et que tout le monde a conscience dans sa propre famille. Ah ben oui, mais lui, il est de fin d'année, alors bon, c'est normal. Mais au niveau plus global et du système éducatif et de la classe, ce sont des choses qu'on oublie. Alors, quelques propositions pour terminer mon intervention. Éradiquer le redoublement, oui, mais je vais essayer de me référer à des propositions qui ont fait l'objet d'évaluations et, si possible, d'évaluations en France, même si je considère que le travail doit être poursuivi pour ces évaluations. Développement dès l'école maternelle du travail régulier en petits groupes permettant un meilleur suivi individualisé des élèves dans les apprentissages fondamentaux. Nous avons mis en place des groupes de langage, nous les avons expérimentés, évalués en maternelle et en élémentaire jusqu'au CM2 depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai commencé à travailler là-dessus avec mes collègues dans les années 85. Des temps d'apprentissage très courts mais réguliers de ce type sont source de progrès rapide et durable pour la maîtrise du langage oral et de l'écrit, dont on sait qu'elles vont être source de difficultés si cette maîtrise n'est pas acquise et que les écarts vont augmenter. Dédoublement des classes et intervenants supplémentaires pour certaines heures, notamment dans les secteurs d'éducation prioritaire. C'est l'exemple des dispositifs à effectifs réduits expérimentés dans différents pays. Il y a eu une expérimentation en France, ce qu'on a appelé les CP à effectifs réduits, conduite par le ministère de l'Éducation nationale au début des années 2000, mais sans modification pédagogique contrôlée. Ces effets globaux ont été jugés insuffisants par rapport au coût que cela représentait, donc rapporté au coût de l'expérimentation, mais en revanche, on pouvait noter que les élèves qui avaient le plus de difficultés en début d'année étaient ceux qui profitaient le plus dans un certain nombre de cas, parce que, encore une fois, on a laissé libre cours à la manière de gérer les petits groupes d'effectifs réduits, donc de CP divisé par deux. Et dans certaines classes, les enseignants n'ont pas forcément plus individualisé le temps de lecture à haute voix de chaque enfant, etc., etc. Mais on a pu montrer des effets positifs. Ça ne suffit pas. Il faudrait continuer à évaluer cela. Bon, on a beaucoup parlé de la politique des cycles, mais une véritable politique des cycles avec des objectifs de compétences définis sur plusieurs années. Les progressions des élèves donc, ne peuvent pas être identiques dans une même classe. Décalage individuel, intra et inter-individuel sont tout à fait normaux. Alors évidemment, en travaillant sur l'idée d'un socle commun de compétences, connaissances et cultures, on peut espérer qu'on va aller dans le bon sens et peut-être arriver à des programmes aussi scolaires allégés, dont on sait que dans nombre de cas, on rame pour aller jusqu'au bout et avec une partie des enfants seulement, donc c'est contre-productif. Il y a eu des très belles analyses même du vocabulaire des manuels qui montrent comment on noie les enfants dans un océan de mots et comment ça s'aggrave au fil du temps, en quelque sorte, travaux d'Alain Lioris. Autre proposition, les prises en charge des enfants sur le temps scolaire, mais hors de la classe, avec des RASED notamment, doivent être exceptionnelles et toujours fondées sur un bilan psychologique pour les enfants concernés, avec des outils validés sur le plan psychométrique. Ça n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Cinquième élément, des classes multi-âges qui permettent à un enseignant de suivre ses élèves pendant plusieurs années et de mieux répondre à leurs besoins, tout en développant le tutorat entre enfants d'âge et ou de compétences différents selon les activités. Là aussi, il y a toute une exploration nécessaire. Il y a eu des travaux d'évaluation dans d'autres pays. Ça nous manque un petit peu en France, je veux dire par autre chose que la satisfaction des acteurs. Une évaluation sur l'impact, de manière contrôlée, sur l'impact pour les enfants. Et puis, je le dis souvent quand on me donne l'occasion d'en parler, à l'école primaire, ne pas externaliser le soutien scolaire sous forme de travaux supplémentaires après le temps de classe ou bien renvoyer à une médicalisation abusive de l'échec, orthophoniste, psychologue, etc. Programmer des activités de soutien en début d'année scolaire sur la base d'évaluations standardisées, parce que c'est dans la classe et sur le temps de classe que doit se jouer la réussite dans les apprentissages, pas en mettant les enfants déjà en difficulté dans des activités de rattrapage, dans des temps supplémentaires, au détriment des temps de jeu, de détente. Alors, activités payantes pour ceux qui le peuvent, prise en charge par des actions municipales ou associatives fondées sur de bonnes intentions, certes, mais qui ne peuvent colmater des manques et ne règlent rien pour les apprentissages scolaires. Il y a déjà eu quelques évaluations sur ce type de dispositif, c'est à poursuivre. Ainsi, aider à apprendre dans la classe, c'est aussi créer un climat de confiance, c'est aider l'enfant à avoir confiance en lui pour surmonter les difficultés, se sentir compétent dans le regard d'autrui et espérer réussir grâce à ses efforts. Sinon, on construit ce que Bandura a appelé auto-handicap. N'ayant pas de prise sur les apprentissages ou ses progrès malgré les efforts, le jeune se met lui-même en situation d'échec ou d'être puni pour ses comportements, voire en situation d'exclusion. Donc ces évaluations des différents dispositifs mis en place en France au cours des dernières années sont encore rares. On s'est souvent contenté d'une évaluation par la satisfaction des participants. Et puis j'ajouterai que les enfants ne se réduisent pas à leur activité d'élève et leur performance scolaire, encore faut-il le rappeler. Et il est difficile de compenser au collège les difficultés dans les apprentissages fondamentaux, notamment de la maîtrise de la langue, qui n'ont pas été réglées à l'école primaire. Nous l'avons constaté dans une recherche d'un an auprès de 16 classes dans l'académie de Nantes, avec le concours de l'inspection académique. C'est là que se développe l'échec scolaire, la ségrégation scolaire, dont on sait qu'elle est aussi sociale et ethnique. Cette ségrégation, liée à la ségrégation résidentielle, c'est pas que le problème de l'école, au développement d'une société et d'un habitat de l'entre-soi, mais l'école est la première institution pour tous qui nous fait vivre ensemble, et pour certains, elle est la seule. On parle beaucoup d'intégration laïque, de mixité sociale depuis les terribles événements de début janvier, d'une mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. La faire vivre passe d'abord par une réduction des inégalités de réussite scolaire dans la classe, dès les débuts de la scolarisation. Merci.